Ça va mieux en le disant. Bonjour à tous. Ça va mieux en le disant, le magazine qui n'hésite pas à donner un coup de main sans tricher à toutes les initiatives positives et solidaires. Alors à l'affiche cette semaine, ils s'appellent Olivier et Claudine. L'un est ingénieur en génie civil, l'autre prof de maths. Et en février dernier, ils sont partis 8 mois sur la route de la soie, plusieurs milliers de kilomètres à pied, en vélo ou en train, de l'Italie à la Russie, en passant par l'Ouzbékistan et la Chine. Alors pourquoi une telle aventure? En quoi ça change une vie? Ils viendront nous le dire dans l'invité du jour. Apprendre à faire du vélo, c'est banal quand on est petit, mais quand on est grand, c'est plus compliqué et ça peut servir pour chercher un emploi. En région lyonnaise, un centre social a créé une vélo-école remise en selle dans l'idée de la semaine. Enfin, pour découvrir des choses insolites, pas toujours besoin de partir aux quatre coins du monde, ça peut se faire dans son quartier. À Paris, un circuit de balade citoyenne a été lancé en 2008. On suivra le guide avec Tessir de l'agence Reporters d'Espoir. Mais tout de suite, pour commencer, notre petit tour d'horizon des bonnes nouvelles un peu partout sur la planète. Et en cherchant bien, on finit toujours par en trouver.
Édition spéciale, demandez édition spéciale.
Ça va mieux en le disant, le petit journal du positif.
Noël le sait dans pratiquement un mois. À ce titre, le gouvernement fait ses premiers cadeaux. La prime de décembre va être reconduite. Elle sera versée aux titulaires du RSA et aux chômeurs en fin de droit. Son montant sera de 152,45 € pour une personne seule, 228,67 € pour un foyer de deux personnes. Coup de pouce supplémentaire. Pour la première fois, elle concernera les parents isolés avec enfants, a précisé Martin Hirsch, le haut commissaire aux solidarités actives. De quoi, sinon remplir un peu plus la haute du Père Noël, du moins finir l'année avec un peu plus de facilité.
Joyeux Noël, Félix !
Le Père Noël, justement, va-t-il bien passer ou rester cloué au lit par la grippe A ? Une question qui angoisserait pas mal d'enfants. Eh bien, pas de panique. En Finlande, le vieux barbu a annoncé sur la télé publique qu'il ne tomberait pas malade grâce aux bons soins de sa femme. Et aux États-Unis, le président de l'association Santa America a demandé aux sénateurs d'Alabama de faire vacciner en priorité les Pères Noël des centres commerciaux, au même titre que le personnel de santé. Par contre, en France, vu le peu d'enthousiasme à se faire piquer, on risque d'avoir beaucoup de mal à le coincer dans son traîneau.
Ho, 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 ho ! Joyeux Noël à tous !
Près de 5 millions d'euros, c'est le record battu dimanche pour les enchères des vins des Hospices Civils de Beaune, l'une des plus importantes ventes de charité en France. Cette 149e édition était présidée par le chanteur Patrick Bruel et Andrea Casigari, le fils aîné de Caroline de Monaco. La majorité des bénéfices ira à la modernisation de l'hôpital, mais deux fûts de 228 litres ont été adjugés 81 000 euros au profit de deux associations caritatives, les Restos du Cœur et la Fondation Motrice pour les enfants infirmes moteurs cérébraux. Mais si vous n'avez pas pu vous payer un bâtard Montrachet grand cru à 65 000 euros, eh bien consolez-vous, le Beaujolais nouveau a coulé à flot pour beaucoup moins cher ce jeudi soir.
Ça va mieux en le disant, le petit journal du positif.
Il n'y a pas d'âge pour être heureux ni pour continuer ses études. Exemple en Italie, fin octobre, Adriana Giannilli a brillamment décroché un diplôme de droit à l'âge, tenez-vous bien, de 94 ans. Un exemple de persévérance pour les autres étudiants, a déclaré le recteur de l'université d'Urbino. Il faut dire que cette ancienne consultante d'entreprise n'en était pas à son premier cursus. Elle était déjà diplômée en langues orientales et en sciences politiques. Mais Adriana ne va pas en rester là, puisqu'elle s'est réinscrite en cours l'an prochain. Et avec ses camarades âgés de 20 ans en moyenne, il paraît qu'elle s'est très bien intégrée.
Ça fait combien à toi maintenant ?
13 ?
Ouh ! Il est encore temps, hein ?
Enfin, une soirée à ne parler que du bonheur, ce sera le cas ce mardi soir sur Arte. La chaîne proposera deux émissions spéciales, l'une consacrée au Danemark, le pays où l'on vit, paraît-il, le mieux au monde. Et puis l'autre documentaire dressera le portrait d'Allemands particulièrement heureux de vivre en France. Ça a peut-être changé depuis jeudi et la qualification à main levée de la France au Mondial. Cela dit, pourquoi cet enthousiasme hexagonal ? Réponse à 20h45.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? La route est prête, le ciel est bleu, Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans...
Alors Claudine et Olivier, vous venez d'entendre ce petit journal du positif. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus positif justement entre la prime de Noël, l'étudiante italienne de 94 ans, du liquide pour deux associations caritatives, la soirée bonheur sur Arte ou encore le Père Noël qui est vacciné aux États-Unis, Olivier?
Moi j'ai un faible pour la dame de 94 ans qui...
Ah, elle a du courage, hein.
Ouais, elle a du courage, puis elle va au bout de ses rêves, en fait, ça veut dire, donc c'est super, tout ça.
Bon. Soirée bonheur sur Arte, avec les Finlandais qui seraient le peuple le plus heureux du monde. Vous qui avez déjà beaucoup voyagé, est-ce qu'il y a d'autres pays qui respireraient le bonheur comme ça, à votre avis, Olivier?
Partout, ouais. Partout, on a croisé nous des gens qui vivent souvent sans pas grand chose, dans pas grand chose, mais qui sont heureux, ils sont souriants, ils échangent beaucoup et on a l'impression que oui, dans tous les pays, on peut être heureux.
Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de choses pour être heureux.
Ça, c'est sûr.
Bon. Alors, Olivier et Claudine, nos Globetrotters, nouvelle version de Tintin en Chine, en Russie, en Ouzbékistan ou encore en Mongolie, autant de pays que vous avez traversés à pied, en vélo, à cheval ou encore en train. C'était de février à septembre dernier. Première étape d'un tour du monde qui va s'étaler sur 3 ans. Alors pourquoi partir? Vous allez nous le dire dans quelques instants.
Ça va mieux en le disant, l'invité.
Alors je ne sais pas si vous resituez cette ambiance, Olivier et Claudine, c'est celle du souk d'Istanbul, et le 15 mars 2009 très précisément, Istanbul en Turquie bien sûr, l'une des villes étapes de votre voyage, eh bien Olivier, vous avez acheté une paire de chaussettes au prix d'un marchandage forcené, 2 livres turcs, soit à peu près l'équivalent d'un euro. C'était vraiment une bonne affaire, Olivier?
Non, je crois que c'était pas une bonne affaire, mais moi je suis très mauvais en marchandage, donc de toute façon je m'attendais à me faire avoir, entre guillemets.
Et vous êtes fait avoir finalement?
Oh, je me suis fait avoir, j'ai payé mes chaussettes, c'est pas très grave.
Oui, parce que je crois que vous avez trouvé moins cher sans mettre plus loin.
Ah ouais, j'ai trouvé moins cher à peine plus loin. Pourtant, je croyais avoir fait une bonne affaire, hein, j'avais bien discuté.
Et alors la marque Adidas, je crois que, parce que vous aviez acheté, elle avait une marque Adidas, ouais, elle n'a pas tenu au premier lavage.
Tout à fait, une belle marque Adidas, mais bon, dès le premier lavage, il n'y en avait plus du tout, donc bon.
Alors le marchandage, cette histoire de chaussettes, c'est l'une des centaines d'anecdotes que vous avez pu vivre au cours de votre premier voyage sur la route de la soie. On en donnera bien sûr beaucoup d'autres, mais tout de même une première question de base. Qu'est-ce qui pousse un prof de maths comme vous Claudine et un ingénieur en génie civil comme vous Olivier à entamer un tour du monde? C'est pas uniquement pour acheter des chaussettes en Turquie, parce que vous savez qu'on en trouve aussi en France. Claudine, qu'est-ce qui pousse à partir?
Ce qui nous pousse à partir, bah déjà, c'est le goût du voyage, puisque avant qu'on quitte nos activités professionnelles, on aimait partir voyager comme ça, un peu en autonomie, c'est-à-dire avec notre tente, notre sac à dos sur le dos, ou bien nos sacoches à vélo.
Hein.
Ouais, le goût de la bougeotte, chacun de notre côté, mais depuis toujours.
Mais alors, entre faire du camping et puis partir à l'autre bout du monde, il y a quand même une marge. Pourquoi est-ce que vous êtes parti, vous aussi, Olivier?
C'est un rêve, moi, comme Claudine, c'était un rêve qu'on avait tous les deux avant de se rencontrer. Et puis c'est un de ces rêves, on a toujours des bonnes raisons de le remettre un peu à plus tard, ce rêve-là. Pour moi, il y a eu un déclencheur, une sorte d'accélérateur. En 2007, j'ai eu un cancer. Ça a été une année difficile, pendant laquelle j'étais content en fait d'avoir ce petit projet dans un coin de ma tête. Et puis je me suis un peu accroché pour pouvoir être à nouveau en forme. Et dès que ça a été le cas avec Claudine, on n'a pas hésité longtemps. On a construit un projet qui nous ressemblait à vélo dans des pays qu'on rêvait de traverser depuis qu'on était gamin. Et voilà, donc on a mis entre parenthèses nos situations.
C'est là où vous êtes dit, il faut faire vite parce que on ne sait jamais.
Il faut pas remettre trop à demain ses rêves parce que voilà, on ne sait jamais.
Alors, partir faire le tour du monde, qui n'en a jamais rêvé, pardon. Cela dit, quand on veut vraiment le faire, c'est pas aussi simple que ça, côté préparation. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué entre les marches administratives, les visas, les vaccins, la préparation du matériel, Claudine?
Oui, c'est un peu tout ça, les vaccins, parce qu'il faut échelonner pour pouvoir... comme on part aussi longtemps, il nous faut quand même une protection au niveau de la santé. Il y a aussi les démarches administratives avec les visas. On peut pas tous les prendre avant de partir, parce que c'est pas possible, en fait, au niveau des délais. Ce qui fait que on prévoit dans telle ou telle ambassade de passer. Par exemple, en Ouzbékistan, on a réussi à avoir le visa pour les 2 pays suivants. Enfin bon, il faut s'organiser.
Ça, j'ai l'impression qu'avoir les visas, c'était pas quelque chose d'évident, hein, Olivier.
C'est la bête noire pour nous. Alors, on a un peu la poisse, je pense, mais on a essuyé un refus du visa iranien au tout début de notre voyage. On rêvait de traverser l'Iran à vélo, on n'a pas pu. Et du coup, c'était une hantise. On se disait à chaque fois, est-ce qu'on va l'avoir ce visa? Et bon, voilà. Donc, c'est un peu le stress. C'est souvent difficile. difficile quand même, parce qu'il faut négocier dans des pays où les gens sont plus bagarreurs que chez nous. Donc il faut essayer de passer.
Là, on retrouve le marchandage. Hein. Là, alors si vous avez la même chance qu'avec vos chaussettes, vous n'êtes pas encore parti. Hein. Alors cela dit, comment financer un tel voyage? Parce que ça coûte cher aussi, entre les billets de train, les vêtements, vélo, appareils photo, assurance, etc. Vous l'avez évalué à 52 000 euros environ. Comment est-ce que ça se finance, ça?
On a fait un petit peu le compte, nous, de nos économies avant de partir, et puis très vite on s'est rendu compte que il allait en manquer. Alors il y a des gens qui choisissent de travailler en voyage, d'autres qui écrivent des livres, qui les vendent au retour. Nous, on a eu l'idée de faire un petit carnet de voyage embarqué, et chaque mois donc on écrit un petit journal avec des photos, des textes d'une douzaine de pages qu'on expédie aux gens ici qui sont abonnés, donc soit en papier, soit en version mail.
Voilà. D'ailleurs, on en a quelques exemplaires que vous avez amenés, ces carnets de voyage, et puis vous avez donc créé ce site à nouveau sur la route toutattaché.fr où on peut suivre vos aventures comme ça du jour au lendemain.
C'est ça, voilà. En complément de ces petits carnets de voyage, on a mis des petites vidéos qui décrivent un peu l'ambiance dans laquelle on est, et chaque jour on alimente le site avec un article. Donc voilà, ça permet de nous suivre un peu
à la trace. Alors le 14 février 2009, c'est le grand départ à Nice sur la promenade des Anglais, direction l'Italie. Et c'est là que les difficultés vont commencer. Écoutez cet extrait de vidéo.
Qu'est-ce que vous avez à dire après l'ascension du col?
C'était fatigant. On a fait 10 pour kilomètres, c'est ridicule. 10 kilomètres. Je ne sais pas, une heure et demie ou un truc comme ça. Là, je suis cuit. J'ai passé la moitié du temps à pousser le vélo.
D'accord.
Voilà, on est dans la neige, il fait pas très chaud.
Sinon, on est un petit peu dans la neige.
Surtout ce qui est agréable, c'est les voitures. Ça, j'aime bien les voitures.
Voilà, il aime bien les voitures. Complètement cuit, Olivier, au bout d'une semaine. On a l'impression que c'est facile. Allez, hop, on part au bout du monde, puis au bout d'une semaine, on tire la langue.
On s'était dit pourtant, attention, démarrons doucement, parce qu'on n'était pas des cyclistes tous les deux. Ouais. Donc on avait dit, on va faire 3-4 heures de vélo au début, et puis on va pas trop forcer. Mais les premières ascensions dans le froid, parce qu'il faisait sacrément froid dans les Alpes.
En février, oui.
Ouh là là, c'était dur. C'était dur.
Alors, traverser les Alpes à vélo, c'était la première épreuve. Et alors, vous allez arriver à Milan pour vous envoler en Turquie. Là, il y a un problème à l'aéroport. Il faut des cartons pour empaqueter vos vélos. Et ça, c'était pas prévu, Olivier. Ah, je sais tout. J'ai passé au moins une journée sur votre site vidéo.
Vous savez,
c'est vraiment du concret, ça.
Eh bien, les cartons.
Vous les avez trouvés où, ces cartons?
On les a trouvés, mais c'est un peu par chance quand même tout ça. Dans une poubelle, dans la ville avant Milan, on a trouvé des éboueurs qui allaient embarquer des cartons de meubles, je crois. Alors, on a vite récupéré des cartons, on les a mis sur notre remorque, et puis on a passé peut-être 3-4 heures dans l'aéroport à bricoler, démonter les cartons, les vélos pour qu'ils rentrent dans les cartons.
Alors finalement, vous avez réussi à vous envoler. Vous arrivez à Istanbul le 26 février sous la pluie, c'est dommage. Qu'est-ce qui frappe, à votre avis, Claudine, quand on débarque dans cette ville mythique, ex-Byzance et Constantinople?
C'est surtout peut-être la circulation. C'est une ville gigantesque qui s'étend sur des kilomètres et ça grouille partout. Enfin, il y a beaucoup d'agitation. Et on est allé directement, nous, dans le centre pour visiter le centre historique. Et les mosquées sont magnifiques, les minarets sont impressionnants, très élancés.
C'est époustouflant. Istanbul. Claudine connaissait, moi pas du tout. J'ai été, moi, sous le charme, vraiment.
Alors, une anecdote peut-être à raconter en Turquie, en dehors des leçons de marchandage de chaussettes, ça va vous poursuivre longtemps, Olivier. Je sais pas, vous avez assisté, je crois, à un match au Galatasaray, vous êtes initié au backgammon, vous avez voyagé sur un grille-pain aussi, ça c'était vous, Claudine, enfin vous tous les deux, comment on voyage sur un grille-pain?
Alors non, c'était plutôt dans le train là qui nous amenait dans le centre du pays. Il faisait une chaleur épouvantable. Il y avait un chauffage qui était vraiment sous nos sièges et on avait les fesses brûlantes. Ouais. Donc une nuit comme ça, oui, c'était. Moi qui ai peur d'avoir froid là, c'était le contraire. C'était
on regarde différemment son grille-pain quand on rentre en France, quand on met la tranche de pain dedans. On se dit on a subi le même sort. Alors on va continuer à parler de ces anecdotes que vous avez vécues dans ce voyage. On en parlerait tout de suite après une première page musicale de circonstances. C'est Voyage des Earless.
Thank you.
Voyage, voyage, c'était Désirless. Voyage, on parcourt le monde aujourd'hui dans Ça va mieux en le disant avec deux globetrotteurs, Olivier et Claudine, partis de février à septembre dernier sur la route de la soie, premier des cinq itinéraires avant le Sahara, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est. Tout cela en trois ans. Alors justement, on vient d'entendre Désirless et à ce propos, vous avez rencontré, je crois Olivier, le seul fan de cette chanteuse. C'était à la frontière de l'Ouzbékistan et du Kyrgyzstan et ça vous a bien arrangé les choses, racontez-nous.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ben, il faut savoir quand même que les pays qu'on a traversés sont pas toujours, c'est pas toujours facile. L'armée est souvent là, il y a des barrages, donc en général, nous on est un peu stressés parce que les gens sont vraiment armés et puis ils rigolent pas. Mmh. Et alors passer les frontières, c'est le stress. Et puis entre l'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan, on est tombé sur un douanier qui voulait vraiment, vraiment contrôler. Donc c'était le troisième parce qu'on avait d'abord eu la police. Bon, le douanier voulait vraiment contrôler nos affaires. Et puis quand il a vu qu'on était français, il dit que lui il aimait beaucoup, je crois, Joe Dassin et Patricia Cass. Et comme il avait mon passeport dans la main, il voulait que je lui montre un peu si je connaissais bien Désirless. Donc moi j'ai dû chanter un petit peu Voyage Voyage.
Vous avez chanté Voyage Voyage. Vous pouvez pas le refaire là, non?
Oh là, Voyage Voyage.
Oh là, bah ça a dû l'amadouer alors.
Oui, ça l'a amadoué. Mais il chantait avec moi.
Vous avez retrouvé le seul fan de Désirless en Ouzbékistan.
On était estomaqués. Mais en tout cas, ça nous a bien arrangé les choses. Il nous a laissé passer.
Il vous a laissé passer. Alors l'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan, deux pays où vous êtes rendus en mai, en juin. Alors on peut peut-être les reciter sur la carte, Claudine, parce que vous savez qu'en France on est très nul en géographie. C'est en dessous de la Russie, si je simplifie.
C'est en dessous de la Russie, même en dessous du Kazakhstan. Et c'est deux anciennes républiques soviétiques. Voilà.
Ouais. Et alors qu'est-ce qui frappe quand on débarque comme ça à vélo dans ces pays, au point de vue, les premières impressions, Olivier? Je ne sais pas, dans les paysages
La montagne, le Kyrgyzstan, c'est vraiment la haute montagne. Le pays il fait à peu près 3000 mètres d'altitude moyenne. Donc c'est vraiment impressionnant, c'est des conditions difficiles, les gens ils sont sous la neige 8 mois de l'année, donc les routes sont défoncées et les gens sont... Mmh. On voit que c'est des gens qui vivent dehors, c'est dur, une vie difficile.
Et aussi, comment dire, les gens ont un faciès particulier là-bas, c'est-à-dire qu'ils ont déjà les yeux bridés, c'est un peuple musulman pour la plupart, mais ils ont les yeux bridés, ils ressembleraient plutôt à des Mongols ou des Coréens, enfin c'est...
Donc c'est ça,
ça nous a surpris. Ouais. Et aussi, les gens ont les dents en or.
Ah bon?
Ah oui, c'est vrai ça, c'est vrai.
En fait,
ils sont aussi riches que ça, finalement.
En fait, c'est comme un bijou.
Alors, au lieu de les porter au doigt, ils les portent dans les dents.
C'est ça.
Ouais, donc, ça doit faire plaisir aux dentistes, là-bas, non?
Ils se font exprès, quoi. Ils se font pourrir les dents pour qu'elles soient remplacées par des dents en or.
C'est un signe de richesse et de rang social. Mm-hmm. Ouais. Alors, en Ouzbékistan, vous avez rencontré entre autres quelques problèmes, je crois, avec la monnaie. Hein, Claudine, vous avez dû en mettre dans votre soutien-gorge.
Oui,
parce que c'est des billets énormes, hein, je crois.
C'est ça. Dans tous les pays, déjà, ma maman m'avait confectionné des petites poches, en fait, dans mon soutien-gorge pour pouvoir y cacher des billets. Et le problème, c'est qu'en Ouzbékistan, la monnaie, enfin, le plus gros billet, la plus grosse coupure, correspond à 70 centimes d'euros. Ce qui fait que, bon, ben...
Il faut dépenser des sommes astronomiques, je crois.
Voilà, ouais, donc ouais. On a des liasses de billets qui correspondent à une, je sais pas, de 200 euros chez nous, mais là, c'est...
Et qu'il faut bien placer quelque part.
Il faut les cacher quand même, donc, bon, ça me faisait une assez grosse poitrine.
Ouais, la poitrine de Pamela Anderson, voilà, donc en Ouzbékistan. Alors, vous avez fait pas mal de rencontres, et notamment, je crois, une rencontre assez délicate avec un barbier. On écoute ça, toujours extrait de la vidéo qu'on peut regarder sur votre site, à nouveau sur laroute.fr. Voilà, c'était dans une échoppe de barbier, hein, je crois, Olivier, où vous étiez décidé à vous faire pousser, donc à vous faire enlever cette barbe. Hein,
parce que je pense que
quand on voyage, on pense pas tout le temps à se raser, du moins tous les jours. Et on se rend compte que quand le barbier sort son coupe-chou, on a un grand moment de solitude.
Alors moi, j'ai pensé fortement à tous les westerns que j'avais vus dans ma jeunesse, où on voit le cow-boy qui a le pistolet en fait prêt à braquer sur le barbier, et on comprend parce que moi je suis pas d'une génération où on avait l'habitude d'aller chez le barbier, et quand il passe la lame sur la carotide, on a quand même un petit pincement.
Alors, en tout cas, je crois que vous avez jamais été rasé d'aussi près.
Ah non, oui.
Ils ont vraiment le coup de main.
Ils ont le coup de main, et puis après il y a plusieurs techniques. Ensuite, on fait une sorte d'un peu d'épilation avec des espèces de petits ressorts qu'ils ont, enfin des trucs que j'avais jamais jamais vu ce genre de système. Et puis ils finissent par nous brûler, en fait, avec un briquet. Ils brûlent un peu la peau pour qu'on soit parfaitement, parfaitement
bon, rasé. Bon, écoutez, c'est vrai que, ma foi, ça peut être intéressant pour être rasé de près, mais c'est vrai que ça a l'air limite dangereux. Alors, côté hygiène, justement, j'ai l'impression que c'était là aussi parfois un petit peu limite. Hein. Vous alliez, notamment en Turquie, je crois que les hôtels n'étaient pas toujours top niveau. Il n'y avait pas toujours de l'eau. Et puis, vous êtes souvent baigné dans des rivières à 5 degrés, Claudine ?
Alors, on ne s'est jamais trempé vraiment dans des rivières parce que justement, l'eau était trop froide. Mais c'est vrai qu'au niveau hygiène, on se lavait comme on pouvait le soir. On faisait la toilette minimum. Et puis, on se prenait une douche quand on avait accès à un hôtel. Quand l'eau était chaude, c'était un luxe. Et c'était pas toujours le cas. Ouais.
Bah voilà, quand on veut faire le tour du monde, hein, c'est pas toujours en 5 étoiles, hein, Olivier. Hein,
il faut prévoir. Ouais,
il faut prévoir. Là, on a vraiment les coulisses de vraiment vécu de personnes qui font le tour du monde. Alors au Kirghizistan, il y a d'autres anecdotes qu'on peut raconter. Beaucoup de fleuristes. On offre des fleurs à n'importe quelle occasion.
Alors oui, à la ville frontière qui s'appelle Osh, c'est une ville qui est assez basse d'altitude, donc elle fait à peu près 1500 mètres d'altitude, et il y a beaucoup de fleurs qui y sont plantées, on en fait le commerce, et on a remarqué que les jeunes, les adolescents de 14-15 ans, quand ils sortent ensemble l'après-midi, eh ben ils achètent des fleurs, les uns les autres, ils s'achètent des fleurs, donc c'est très commun apparemment dans cette ville, en tout cas, c'est pas ce qu'on a pu voir ailleurs. À cause de la montagne, je pense.
Mais j'espère que vous en avez offert à Claudine.
J'en ai offert à Claudine.
Ah, quand même, des fleurs, ça se refuse pas. Alors côté nourriture. Parce que là aussi, c'est un aspect du voyage, ça a été le dépaysement total. Vous donnez d'ailleurs sur votre site pas mal de recettes locales. Alors, on apprend comment faire un banton, un bantou, je ne sais pas comment on appelle ça exactement.
Oui, alors je ne saurais pas le prononcer parce que c'est mongol.
C'est un bouillon à base de viande et de morceaux de farine qui est servi aux enfants dès l'âge de 6 mois. Alors là, on diversifie tout de suite, on se pose plus la question de la diversification alimentaire. Hop, c'est du bouillon tout de suite. Vous donnez aussi la recette du poire au miel, des mantis qui sont des genres de raviolis à la viande. Un plat qui vous aurait marqué, Claudine, dont vous avez le souvenir. Alors, peut-être pas forcément gustatif.
Alors, peut-être on pourrait parler en Mongolie des produits laitiers. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a un plat traditionnel qui nous a vraiment emballés. Non, sur toute cette route. Bon, à part en Turquie, on mange très très bien. Mais sinon, bon, ça n'a pas été forcément excellent. Mais en Mongolie, ils ont beaucoup d'animaux, des yaks, des juments. Et ils utilisent le lait de ces animaux pour en faire des produits laitiers. Ils les font sécher, ils font du yaourt, ils font...
Il faut pas mal,
De l'alcool, même avec le produit laitier qu'ils font évaporer.
Donc, c'est ça qui vous a marqué. Les intestins de lapin, ça vous dit quelque chose, Olivier?
Oui, ça me dit quelque chose. c'est moi qui invente, je peux pas vous le prouver. Mais dans une petite échoppe en Chine, il y a beaucoup de vendeurs ambulants et j'avais acheté ce que je croyais être des pâtes. Et en fait, non, c'est pas du tout des pâtes. Ça ressemblait plutôt à des intestins.
Alors, c'était vraiment des intestins ou pas?
J'en sais rien, je peux pas vous le dire, mais c'était drôle.
Bon, en tout cas, on voyage avec vous sur le plan culinaire. Alors, c'est vrai qu'il y a une découverte de la cuisine différente. On découvre aussi des paysages nouveaux, on se confronte à des modes de vie dont on n'a pas l'habitude. Mais un voyage, c'est aussi fait de rencontres. Quel regard vous jetez les populations locales, voire comme ça deux Français qui débarquent à vélo?
On a eu beaucoup de rencontres, des gens enthousiastes. Ils sont très curieux de voir des gens à vélo, déjà, c'est assez rigolo. Et puis, on a traversé essentiellement des pays musulmans. Et la religion et accueille énormément les voyageurs là-bas. C'est vraiment une tradition. Donc, toujours les gens cherchaient à nous héberger, à nous nourrir, à nous offrir un verre de thé. Donc c'est l'occasion à chaque fois
de discuter. C'est pas une légende l'hospitalité dans ces pays.
C'est pas du tout une légende. On a été vraiment nous frapper de cette simplicité. Les gens vous offrent ce qu'ils ont de mieux, le meilleur morceau de viande, la meilleure place. Parfois les gens nous laissaient leur chambre pour qu'on soit mieux installés. C'était vraiment touchant. De voir cet accueil et du coup pour nous c'était très très enrichissant.
Est-ce qu'on fait pas quand même une différence entre les hommes et les femmes? Parce que je crois que Claudine vous avez un peu souffert parce qu'on s'adressait souvent à Olivier pour que il discute avec les autorités ou qu'il rende service et puis les femmes. Et vous, est-ce qu'on vous adressait quand même la parole?
Oui, c'est vrai que les hommes s'adressaient tout le temps à Olivier. Moi je comptais pas quoi.
Ah bon?
Non. Mais par contre dans ces pays les femmes sont curieuses de la vie des européennes et souvent bon alors la communication est difficile mais j'ai eu la chance de pouvoir cuisiner des plats avec elles.
Vous avez fait un beau bourguignon non là-bas?
Non, j'ai plutôt testé la cuisine locale mais oui il y a un échange avec les femmes très important.
Alors vous parlez de langage, comment on se débrouille justement dans ces pays-là? Parce que pour parler ouzbékistanais ou kirghizistanais,
ouzbék,
voilà.
Eh bien, on se débrouille un petit peu. C'est-à-dire que la Turquie, bien sûr, mais ensuite Ouzbékistan, Kyrgyzstan et l'ouest de la Chine sont des langues. Les langues qu'ils parlent sont des langues turcophones. Donc, il y a des mots qui se ressemblent avec ceux du turc. Donc, on a passé 3-4 mois, du coup, dans cet environnement-là. Alors, on avait appris quelques mots, un petit peu à compter. Et puis après, on parle beaucoup le russe, la Mongolie, la Russie bien sûr, et puis Ouzbékistan, Kyrgyzstan. Donc on avait appris quelques mots simples pour pouvoir dire qui on était, nos familles, nos professions, où est-ce qu'on allait, et puis bien sûr quelques plats à manger. Et puis on parle beaucoup avec les mains,
ouais.
On parle avec les mains.
Langage universel.
Il y a ce langage universel, et on s'est rendu compte que finalement, il y a des gens avec qui l'échange se fait très facilement. Il y a des gens qui sont à l'aise, ils parlent dans leur langue, et pourtant on arrive à comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Ouais. Donc c'est...
Il n'y a pas de confusion aussi dans le langage, parce que parfois il y a des gestes qui sont mal interprétés en France, mais qui sont bien interprétés dans d'autres pays, et inversement.
Oui, c'est vrai. Il y a des façons de faire qui sont différentes, des signes différents. Je pense en particulier, moi, à la façon de compter. On ne compte pas pareil, nous en France, dans les pays qu'on a traversés, par exemple, on ne fait pas un avec un pouce ou deux. Il n'y a pas l'index et le pouce. Deux, c'est avec l'index et le majeur. Donc, il faut se faire un peu à ces signes. Ouais. Il y a des signes particuliers pour le 6. Enfin, il y a des façons de faire, des petits codes.
On apprend tout ça sur place. Alors, après ces deux pays, il y a eu la Chine, il y a eu la Mongolie en juillet, et puis vous avez traversé, le désert de Gobi, il y a eu la Russie, puis vous êtes finalement rentré en France par le Transsibérien, notamment fin septembre. Toujours plein d'anecdotes, comme ces serveurs de restaurants qui dorment en Chine, la contenance des bouteilles qui est jamais la même en Chine, ça vous l'avez remarqué aussi. Vous avez même passé de la drogue sans le savoir. Alors, pour en savoir plus, justement, on renvoie les auditeurs sur votre site, parce que l'anecdote est vraiment très croustillante. Vous avez dormi sous un pont, vous avez côtoyé des arracheurs de dents, parce que ça existe encore en Chine. Enfin, il y a plein de choses à découvrir sur votre site. On va continuer de parler de tout cela. Ce sera après une deuxième page musicale. Et c'est partir avec Julien Clerc.
Un avion qui s'envole pour ailleurs, mais on n'est pas à l'heure. Partir, partir, même loin de quelqu'un ou de quelqu'une. Même pas pour aller chercher fortune. Oh, partir sans rien dire, vivre en s'en allant et en s'envolant. Et les gens, l'argent serait du vent.
Julien Clerc, c'est ce qu'ont fait Olivier et Claudine pendant 8 mois de février à septembre sur la route de la soie de l'Italie à la Chine en passant par la Turquie, l'Ouzbékistan ou encore la Russie. Alors votre principal moyen de locomotion à tous les deux, c'était le vélo, ce qui est d'ailleurs courageux. Je ne sais pas combien de kilomètres vous avez pu faire à vélo. Vous avez compté, Olivier ?
Pas précisément, parce que j'ai perdu mon compteur kilométrique en route, ouais. Mais à peu près 4000.
4000 kilomètres en vélo. Alors apprendre à faire du vélo en général, ça se fait quand on est enfant avec les petites roulettes. Mais quand on n'a pas eu cette possibilité et qu'on se retrouve adulte, ça peut manquer, et pas seulement pour les loisirs. Alors comment se remettre en selle? Dans le Rhône, à Villeurbanne, le centre social de Cusset a créé il y a quelques années un vélo-école pour les grands. Et ça ouvre pas mal d'horizons. On est allé à la rencontre de ces apprentis cyclistes.
Ça va mieux en lui disant l'idée de la semaine.
D'accord. Tu regardes devant toi et t'appuies fort sur la pédale. Hop, vas-y, mets l'autre pied. Voilà, vers l'avant, toujours vers l'avant. Regarde devant toi. Arrête-toi.
Ça va venir,
mais pour l'instant, ce n'est pas évident. Coiffées de casques, elles sont 6 cet après-midi à s'élancer dans les allées du Petit Parc. Un équilibre pas toujours assuré, mais le cœur y est.
Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies, la bicyclette.
La création de cette vélo-école, elle remonte à 2006. À l'origine, il s'agissait de remettre en selle des personnes en recherche d'emploi pour leur permettre de se déplacer plus facilement. Mais très vite, les premiers appels sont venus de gens qui n'avaient jamais appris à faire du vélo. Pour eux, il a donc fallu repartir de zéro. Philippe Prigent, de l'association Pignon sur Rue, l'un des deux formateurs.
Donc là, on va apprendre l'équilibre, après les bases de la conduite, tourner, freiner, passer les vitesses, etc. Et puis après, pour les personnes pour qui c'est un vieux souvenir, ou alors qui s'en servent uniquement dans un mode de loisir, leur donner déjà le comportement adopté pour en faire un mode de déplacement urbain, c'est-à-dire tendre le bras pour indiquer ses directions, être vigilant vis-à-vis de toutes les interactions qu'il peut y avoir dans la circulation, etc.
Mais pourquoi n'avoir jamais su faire du vélo alors que ça paraît tellement évident quand on est petit? Les raisons sont diverses. D'abord économiques, une bicyclette, ça coûtait trop cher. Ensuite culturelles, comme l'explique Lugna, jeune femme d'une vingtaine d'années.
Ça donne un petit peu la liberté aussi, parce que pour nous, d'origine arabe ou africain, on a un manque. Avant, c'était un sujet tabou pour. Pour une fille qui monte sur un vélo, c'était.
Pour vous, c'est presque une reconquête féminine de faire du vélo, alors?
Oui, à peu près. Et en même temps, c'est pour promener avec nos enfants et pour prendre un petit peu l'air. Donc, c'est bien.
Et pourquoi s'y remettre aujourd'hui? Là aussi, les motivations sont variées. Écoutez cette jeune grand-mère de 61 ans.
Je viens ici pour prendre comment on fait le vélo et tout.
Et pourquoi vous voulez apprendre à faire du vélo?
Pour le travail, pour faire les commissions, pour faire des papiers quand ils sont en grève, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro, ça sert toujours.
C'était recommandé par mon médecin.
Nicole, autre apprenti cycliste.
C'est-à-dire j'ai un problème de santé. Oui, mon médecin m'a recommandé de faire soit la piscine, le vélo ou la marche. Voilà. Et j'ai choisi de faire le vélo.
Mais il faut toujours que tu regardes devant toi, tu regardes pas tes pieds, parce que tu vas perdre l'équilibre. Et si tu t'arrêtes de pédaler, tu vas perdre la vitesse, et si tu perds la vitesse, tu perds l'équilibre.
J'ai tombé.
Reste qu'enfourcher une monture sur roue, c'est pas toujours facile quand on n'est plus un enfant. Alors Philippe encourage, conseille et rassure.
Pourquoi c'est plus dur? C'est tout simplement parce que la perception du danger n'est pas du tout la même. Quand on est petit, on ne sait pas où est le danger, on est un peu casse-cou, donc on se lance. Alors que plus grand, le vélo, c'est synonyme de peur, dans le sens où c'est quelque chose qui leur paraît inaccessible.
Et côté élève, on est très motivé.
Oui, c'est difficile, j'arrive pas, comme devant vous.
Je vois que vous n'avez pas de pédale là devant vous.
Oui, je fais avec le pied, après on verra bien.
Vous êtes tombé déjà?
Ah, je suis tombée une fois.
Et alors, ça fait mal?
Duby, il fait mal et après ça passe, hein, c'est normal.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
En bout de course, les résultats sont variables selon les élèves, mais c'est, paraît-il, 100% de réussite. Il faut dire que le programme est soutenu, 3 sessions par an, chacune de 12 demi-journées, 5 cours d'apprentissage, 2 d'autonomie, suivis de lectures sur plan et de calculs d'itinéraire, sans oublier des leçons de mécanique. Philippe Prigent.
Remettre une chaîne quand elle a déraillé, régler les différentes hauteurs, réparer une crevaison. et après regonfler la chambre à air. Voilà, toutes ces choses qui, pour beaucoup de cyclistes, est synonyme de remise du vélo au garage, alors que si on intervient facilement, on peut le remettre en circulation rapidement.
Et côté prix, eh bien c'est gratuit, les vélos et les casques sont fournis par le centre social. Les financements, eux, viennent du Fonds social européen et du plan local d'insertion par l'emploi, mais aussi du contrat urbain de cohésion sociale.
Merci.
En bref, une belle initiative et une affaire qui roule. Et à voir Lubna, Nicole et toutes les autres pédaler avec énergie en évitant les arbres avec leur VTT, on se dit que dans quelques années, la relève de Gianni Longo est assurée. Enfin presque.
C'est pas facile, hein.
Profitons des beaux jours pour vider nos querelles et toutes nos vieilles rancœurs, direction la poubelle. Écrasons dans sa toile l'araignée du matin, épargnons celle du soir, au moins jusqu'à demain. Libérons les sirènes du filet des pêcheurs et laissons la musique nous gagner en douceur. Le bonheur c'est facile quand on y met du sien. Le bonheur c'est facile, oui. Le bonheur c'est facile quand on y met du sien. Le bonheur c'est comme faire du vélo sans les mains.
Voilà pour cette vélo-école de Cusset dans le Rhône. Alors peut-être un petit commentaire, Olivier ou Claudine. Alors cette femme qui disait que le vélo c'était réservé aux hommes et puis cette autre qui disait que c'était de toute façon trop cher. Est-ce que vous l'avez ressenti dans votre voyage, vous qui avez fait cette route de la Chine principalement à vélo, Claudine? Est-ce que le vélo c'est réservé qu'aux hommes là-bas?
Oui, oui, oui. Moi j'ai eu des femmes qui m'ont dit que le vélo c'était pour les hommes. Alors elles me le disaient pas pour moi, mais en fait elles le disaient plutôt pour elles, qu'elles auraient aimé faire du vélo.
Et pourquoi? Parce qu'on monte ses jambes, c'est ça. C'est ça qui choque.
C'est ça. Alors moi je portais une robe en fait.
Ah bon?
Ouais. Une robe qui arrivait en dessous du genou, c'était pas, mais juste pour couvrir un peu mes fesses et mes cuisses.
D'accord. Et est-ce que c'est du luxe aussi la bicyclette là-bas dans ces pays, en Mongolie, en Ouzbékistan?
Alors pas toujours. On a les Chinois.
Les Chinois font beaucoup de vélo.
Chinois font du vélo. Les Mongols en font peu parce que finalement les villages sont petites, donc il n'y a pas de raison de circuler à vélo dans une petite ville. Et puis après, le pays est tellement immense, il est trois fois grand comme la France, et c'est de la steppe, donc c'est pas très très adapté. Le Kyrgyzstan c'est de la montagne. C'est pareil, il y en a peu. Mais il y a parfois dans les villages en Ouzbékistan, je me souviens, des gamins, quand on traversait les villages, hop, ils montaient sur leur vélo, ils nous suivaient. Donc, et puis il y avait des adultes aussi, donc il y a des gens qui font du vélo.
Est-ce que ça facilite plus les contacts de se déplacer en vélo plutôt qu'en voiture, hein? Parce que vous avez volontairement choisi de ne pas partir en voiture.
C'est vrai, c'est vrai. Ça correspondait un peu à notre façon de voyager. On avait envie de faire un peu de distance quand même, d'aller plus vite qu'en marchant. Mais on pensait qu'on serait plus disponible et plus au contact des gens, d'être à vélo. On n'a pas été déçus, on peut pas dire que du coup la voiture nous aurait empêché de vivre ça, on n'en sait rien, mais nous on a envie de faire un peu de sport, on a envie d'être dehors et on sait que les gens sont très curieux et ça
en tout cas ça a l'air de vous avoir gardé la ligne, hein, parce que vous avez vraiment une ligne de jeune homme et de jeune femme, le vélo ça maintient en forme apparemment.
On est devenu musclé. on est parti pas très très grand sportif.
Le Tour de France non,
mais ouais, alors on n'arriverait pas parce que nous on sait faire des efforts de longue durée et puis on fait pas de performance, c'est à dire qu'on va pas très vite mais on se déplace, on fait 10-12 heures de vélo chaque jour.
Tout de même 4000 km à vélo, des crevaisons épiques ou des chutes épiques?
Alors, chute, pas vraiment. Toi, t'as voulu un jour essayer de filmer
oui,
une chute.
En voulant filmer, je me concentrais plus sur la vidéo que sur mon vélo. Et bon.
On a eu une chute en direct.
Voilà.
Ouais. Bon, c'est bon pour Vidéo Gag, ça.
Mais sinon, au niveau des crevaisons, jamais.
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 4000 km.
Alors, on a été un petit peu aidé. On a des pneus increvables de chez Michelin. Michelin nous avait offert des pneus increvables. Il nous avait dit avec ça, vous ne crèverez jamais. Bon, on demande toujours à voir, et ben on peut vous dire qu'on n'a jamais crevé. Ouais. Et ça, c'est un sacré luxe, parce que quand il fait froid, quand la nuit tombe, quand la pluie est là, on est content de ne pas devoir s'arrêter sur le bord de la route pour essayer de réparer une crevaison.
Donc des vélos jamais crevés, par contre, les cyclistes...
les cyclistes, ils ont été crevés.
Un peu fatigués aussi, on a l'impression. Alors, vous n'êtes pas déplacé qu'en vélo, mais aussi en train, en taxi, en avion, et notamment à cheval en Mongolie. Là aussi, c'était un apprentissage. Preuve à l'appui, extrait de votre journal en vidéo.
Claude a appelé son cheval Yakari.
Ouais, c'est Yakari là.
Pas mal, hein, finesse.
Il ressemble un petit peu.
au cheval de Yakari.
Je crois que tu peux présenter Flicard.
C'est lui, il va vite. C'est un hardos, il remet la tête sans arrêt. Mm-hmm. Et à moitié taré. Ça, c'est notre guide là-bas, son gars avec son cheval. Bon, bah lui, ouais. Évidemment.
Avec son fusil dans le
dos. Il a moins de problèmes que nous. Et celui-là de cheval qu'ils ont appelé Pompon. C'est bien, on est. C'est l'épopée. Hein. Voilà, jour 2. 50 km, je crois qu'ils ont dit. Jusqu'à un super lac, j'espère. Si on pourra pêcher ce soir, ce sera super. Allez, en avant.
Voilà, alors la musique, hein, elle est pas dans votre extrait vidéo, on l'a rajouté pour faire un petit peu ambiance, hein, c'est la conquête de l'Ouest, là c'était la conquête de la Mongolie avec Olivier et Claudine. On entend un drôle de bruit, un bourdonnement, apparemment il y avait beaucoup de mouches.
Il y avait beaucoup de mouches, ouais. Dans, suivant les régions qu'on traverse, il y a des fois, il y a beaucoup de mouches. Ouais.
Et le cheval, pas toujours confortable non
alors,
plus.
Alors le cheval, la selle du cheval, pas confortable. Les selles mongoles sont des espèces de bouts de bois sur lesquels on se met, et ça cisaille les cuisses, c'est assez difficile.
J'imagine l'état des fesses quand on descend. Alors en parlant d'animaux, est-ce que vous avez fait quand même des rencontres limite dangereuses?
Avec les hommes, jamais, avec les animaux, oui.
Oui.
Claudine?
En Turquie, avec des chiens. Il y a une race de chiens, en fait, qui existe sur les plateaux de Cappadoce, en Turquie, les Kangals. Et en fait, ils sont là pour défendre les troupeaux de moutons des attaques des loups et des ours. Mais en fait, ils attaquent les hommes comme ça, et notamment les cyclistes qui passent. Il a fallu pédaler vite.
Encore plus vite que d'habitude.
Ils sont vraiment dangereux. Mmh. Ils viennent là pour attaquer, pour tuer, quoi. Donc, il y a des autochtones qui nous ont aidés en voiture. Ils ont essayé d'éloigner les chiens pour que. Enfin bon, c'était assez dangereux. Ouais. Et en Mongolie aussi, la nuit, on a été attaqué par un taureau. Et là, bon, on a eu très très peur parce qu'on était sous la tente. Et
il a chargé pendant que vous étiez sous la tente.
Il a déchiqueté la tente.
Ah, ouais.
On a dû essayer de s'échapper.
Et la tente, elle était rouge, non?
Non, elle était bien verte. On ne sait pas du tout ce qui lui a pris. On peut pas le dire. On était habitué à vivre au milieu des animaux, donc on s'est pas inquiété de voir une vache, ce qu'on pensait être une vache, se frotter un peu à la tente. On a essayé de la faire partir, mais ça lui a pas plu. Il s'est mis à hurler, à gratter du pied, et puis il a commencé à déchiqueter la tente. On a réussi à se faufiler, s'échapper, se réfugier dans un arbre. Et vraiment, vraiment, on a eu peur. On a bien cru que là, on allait pas s'en sortir.
Eh ben oui, ça fait partie du voyage. Il y a pas que des joies. Ça fait partie un peu des aventures. Voilà. Cela dit, pour découvrir des choses insolites, pas toujours besoin de partir au bout du monde. L'aventure, comme on dit, peut être au bout de la rue. Exemple à Paris. Depuis 2008, un circuit a été organisé, mais pas question de parler de Tour Eiffel ou du Musée du Louvre. Ce circuit se déroule dans un quartier populaire, celui de Belleville. Alors, qui l'a organisé? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on y découvre? Tout de suite, les explications de Tessir, de l'agence Reporter d'Espoir.
Ça va mieux en le disant, avec Reporter d'Espoir et la Caisse d'Épargne, partenaire des initiatives solidaires.
Tessir, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors Tessir, quel est le principe et puis surtout l'objectif de ces balades citoyennes, à savoir la découverte d'un quartier populaire?
Alors l'idée en fait de ces balades, c'est de proposer des balades insolites dans des quartiers populaires parisiens du type Belleville et d'aller à la découverte en fait de quartiers complètement dévalorisés et oubliés des guides traditionnels.
On va revenir sur le déroulement de ces visites, mais comment est-ce que c'est né? Qui en a eu l'idée?
Alors, à l'origine de cette initiative, c'est une jeune femme d'origine ivoirienne, Angénique, qui est tombée amoureuse en fait du quartier de Belleville et qui a été à la rencontre des habitants et des commerçants et qui a voulu faire partager cette passion aux autres en créant cette association Paris par rue méconnue.
Comment est-ce qu'elles se déroulent ces balades? On prend rendez-vous donc et puis on part en visite?
Alors voilà, donc on l'appelle, on prend rendez-vous, elle nous intègre à un groupe, donc ça coûte 10 euros, donc généralement on a un groupe de 5 à 10 personnes, rendez-vous à la sortie du métro, donc complètement, enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de protocole, et voilà, et on commence les balades par des ruelles assez, enfin, insolites.
Ce qui vous a beaucoup surpris, vous, je crois, ce sont les mosaïques.
Voilà, c'est complètement inattendu. Hein. C'est-à-dire que quand on est dans un quartier populaire et plutôt mal réputé, quand on entre dans une cour, voilà, on s'attend à quelque chose de plutôt banal. Et en fait, non, il y a des cours vraiment assez spectaculaires de par donc les mosaïques, mais aussi par des plantes médicinales qui ont été plantées dans les années 80 par des immigrés africains et qui aujourd'hui, c'est les propriétaires qui ont pris la relève.
Alors, il y a un autre aspect de cette visite, c'est qu'on rencontre aussi les habitants du quartier. Dans quelle mesure?
Alors, c'est très simple. Elle leur donne rendez-vous dans des cafés et ils sont là, ils nous attendent. Ils nous racontent un petit peu leur histoire. Alors, à la rencontre, à la balade où j'ai été, c'était un homme de 80 ou 90 ans qui a toujours quasiment vécu à Belleville et qui nous a raconté en fait l'histoire de ce quartier parce qu'il a vu donc plusieurs générations en fait et puis ses arrivées d'immigrés donc dans les années 20 c'était les immigrés arméniens, dans les années 60 maghrébins, puis dans les années 80 les immigrés africains. Donc voilà, donc il nous raconte un petit peu l'histoire de ce quartier avec toujours plein d'anecdotes.
Et est-ce que les habitants du quartier se prêtent au jeu, sont prêts à rencontrer des visiteurs?
Alors ça justement, c'est le travail que fait Angénique, hein. Elle passe son temps à aller à la rencontre des habitants et des commerçants parce qu'elle veut vraiment faire ce travail de mémoire, hein, qui est très important pour elle. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération qui est en train de partir et qui a connu le Belleville des années 20. Et pour elle, c'est important qu'ils puissent témoigner de ce qu'a été le quartier.
On se demandera tout de même qui ça peut intéresser, ce genre de visite. Est-ce que ce sont forcément des touristes étrangers, entre guillemets, à ce quartier?
Alors non, justement, hein, c'est assez étrange, mais c'est peut-être parce que l'association ne figure pas dans les guides traditionnels, mais c'est surtout des Parisiens, en fait. Beaucoup de Parisiens veulent découvrir, en fait, des quartiers qui sont à quelques kilomètres de chez eux et qui ignorent totalement. Mais il y a de plus en plus d'étrangers. D'ailleurs, Angénique a plusieurs accompagnateurs révélateurs de quartiers bénévoles qui parlent différentes langues, donc japonais, italien, allemand. Donc c'est la preuve qu'il y a une demande de la part des touristes étrangers.
Voilà, demande pour des circuits touristiques un petit peu éloignés donc des guides traditionnels. Quel résultat ça a donné? Ça a démarré sur le quartier de Belleville. Est-ce que ça s'est étendu à d'autres quartiers de la capitale?
Alors oui, ça a eu un tel succès. Donc l'association a été lancée en 2008 et dès le début, en fait, plusieurs mairies ont appelé Angénique pour qu'elle développe en fait ce concept dans d'autres quartiers, comme celui du 10e. Donc c'est le canal Saint-Martin, Barbès, dans le 18e arrondissement, ou Ménilmontant encore dans le 20e. Donc toujours des quartiers populaires dévalorisés.
Eh bien, merci Tessire de nous avoir fait découvrir donc ces balades citoyennes très originales donc dans des quartiers populaires. Et puis on retrouvera bien sûr Reporter d'Espoir la semaine prochaine. Merci.
Merci.
Ça va mieux en le disant. RCF.
Voilà donc pour ces balades citoyennes à l'initiative de l'association Paris Paru Méconnu. Olivier et Claudine, vous êtes toujours avec nous dans votre périple entre l'Italie et la Chine. J'imagine qu'il y a eu des sites qui ont dû vous marquer. Est-ce qu'il y en a en particulier quelques-uns, Claudine ?
Oui, moi je dirais le site antique du Nemrut Dagi en Turquie, qui est un tombeau qui date de 2000-2500 ans, en haut d'une montagne qui culmine à 2000-2500 mètres d'altitude. Et nous, on y a accédé à pied. On a fait une ascension de 12 heures pour accéder à ce site qui était sous la neige.
Et ça méritait
à cette
vraiment
époque. Oui, c'était formidable parce que c'est des statues dont la tête mesure plus de 2 mètres de haut. Enfin, c'est assez gigantesque et sous la neige comme ça, seul, parce que les touristes ne viennent pas à cette époque, la route est fermée. Et donc, oui, c'était assez
donc
incroyable.
Donc c'était rien que pour vous?
Rien que pour nous.
Comment est-ce que vous visitiez? Vous aviez un guide ou vous y alliez un petit peu au feeling, Olivier?
Non, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément... à Istanbul, on a essayé de s'intéresser un petit peu à l'histoire, en plus des monuments. Le reste du temps, on rencontrait des sites, on rencontrait des gens qui nous disaient « allez voir tel endroit ». Et puis, on s'imprégnait des lieux plus qu'on cherchait à connaître exactement l'historique.
Alors, vous n'avez pas ramené que des photos, des anecdotes, mais aussi des objets souvenirs. Alors, on a deux ici. Alors, il y en a un, c'est un bonnet, et l'autre, c'est une petite boule qui m'intrigue déjà depuis trois quarts d'heure. On va commencer par le bonnet, un bonnet blanc de forme un petit peu, je sais pas comment on pourrait dire, avec des côtés bien délimités.
Oui, donc ce chapeau, il s'appelle le kalpak, c'est le chapeau traditionnel des Kirghizes. C'est vrai que ça ressemble plus à un haut de forme un peu haut, noir et blanc, légèrement brodé. Et il est porté par les hommes dans ces pays, aussi bien dans les villes que dans les campagnes.
Vous voulez pas le mettre, Olivier, pour voir à quoi ça ressemble sur un homme, non? Allez-y.
C'est curieux. Parce
on n'a pas encore l'image en radio, ça s'appellera la télé.
C'est
oui, au perché, ça va très bien.
Merci.
D'accord, c'est peut-être pas vraiment votre taille. Alors, il y a une petite boule là qui m'intrigue. C'est quoi cette petite boule? C'est une petite boule, apparemment, on dirait une sorte de plante ramassée.
Oui, en fait, c'est un objet qui vient de Chine. C'est une fleur qui est prise dans des feuilles de thé. Alors comme ça, alors ça a été ficelé à la main pour que tout tienne bien. Mais en fait, ce qui est magique, c'est lorsqu'on la met dans de l'eau chaude, tout d'un coup, la fleur sort de cette feuille de thé et doit mesurer pratiquement 20 cm de haut. Il y a la tige, etc. Mmh.
Et
on
ça
peut
boire
le thé qui s'infuse de cette fleur.
Mmh. Alors, tout voyage a une fin. Et puis, en septembre dernier, vous êtes rentré en France. Vous avez emprunté notamment le transsibérien. Alors, j'avoue que j'étais un petit peu déçu parce que je m'imaginais le transsibérien comme une suite de wagons luxueux avec des lourdes tentures aux fenêtres, des fauteuils moelleux, des lampes galets à toutes les tables. Puis non, on voit plutôt un train couchette où on s'entasse. C'est plus proche du camping que du pullman, Olivier.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Que... Alors, il y a plusieurs transsibériens, il y a plusieurs classes. Nous, on a voyagé en classe populaire. C'est extra pour les rencontres, c'est extra. Mais c'est vrai que c'est un wagon d'une cinquantaine de personnes où il n'y a pas de compartiment. Donc, les gens dorment sur des couchettes les uns à côté des autres. On y arrive dans des conditions... Nous, on l'a pris, on est monté donc à mi-chemin. La ligne du transsibérien fait 10 000 km entre Moscou et Vladivostok. Et à mi-chemin, à peu près, il y a Irkoutsk et le lac Baïkal. C'est là qu'on est monté. Et donc, on rentre en plein cœur de la Sibérie. On arrive avec des hommes, majoritairement d'ailleurs, qui sont là, torse nu, avec des muscles énormes, des tatouages et des bouteilles de bière à la main. Et on se dit, bon sang, bonjour, et voilà. Et en fait, les gens sont extra, sont super accueillants. C'est très, très convivial. Tout le monde discute. Les gens échangent leurs magazines. Les gens font les mots croisés ensemble. Enfin, c'est vraiment super sympa. Et c'est l'occasion d'apprendre plein de mots de russe, plein de jeux de cartes russes. Enfin, c'était super sympa.
Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Cette émission, généralement, on la conclut par une citation optimiste. Et pour ça, nous avons une spécialiste. Et c'est Michel Delaunay.
Les mots optimistes avec Michel Delaunay.
Le bonheur est la vocation de l'homme. C'est ce que disait le père Henri-Dominique Lacordaire dans ses conférences à Notre-Dame de Paris. Né en 1802, il fut considéré par ses contemporains comme le plus illustre prédicateur catholique de son temps. Mais il est connu également comme le restaurateur, en France, de l'ordre des Dominicains, supprimé à la Révolution. Aujourd'hui, le père Lacordaire apparaît comme un des chefs de file des libéraux catholiques français, souvent en désaccord avec l'Église, méfiante devant l'évolution de la société. Il reste à ce jour le premier et le seul moine jamais élu à l'Académie française. Son art oratoire s'est prolongé dans des œuvres et une correspondance abondante, qui révèle une personnalité riche et contrastée, mais toujours optimiste. Avant même de trouver le bonheur éternel, les hommes peuvent déjà commencer à le rechercher sur Terre.
Merci Michel, une citation optimiste. Est-ce que vous avez une devise, une citation, Olivier, Claudine, je sais pas moi, qui veut aller où, ménage son vélo par exemple, non?
Non, on n'en a pas. On n'a pas de devise, ouais. On n'a pas de devise. On est content de dire aujourd'hui que nous, on a la chance de vivre nos rêves et qu'on en est super heureux tous les deux.
Vous l'avez trouvé finalement, le bonheur, si l'on peut dire?
Ouais, en tout cas, on est heureux, ouais. En tout cas, on est heureux quand on pédale, quand on est en voyage. Voilà, on fera peut-être pas notre vie à voyager sur les routes du monde, mais en tout cas, pendant cette période-là, on aura été... En accord avec ce qu'on avait envie de vivre, et ça, c'est super.
Est-ce que ça a changé votre vision de voir le monde aujourd'hui, quand vous rentrez en France?
Il y a des choses qui nous ont beaucoup touchés dans tous les pays qu'on a traversés. La simplicité des gens, ces échanges qu'on peut avoir, la richesse humaine, en fait, que tous les pays ont, peut-être le partage aussi. Et chez nous, bien sûr, c'est pas complètement perdu, mais il suffit de prendre la voiture. Quand on est là, en venant à la radio, on était en voiture. On voit cette hostilité, pour pas dire agressivité des gens, l'énervement. Et nous, on se dit, bon sang, on est bêtes quand même.
Alors, en tout cas, vous allez poursuivre vos aventures, puisque vous allez repartir cette semaine. Cette fois-ci, ça sera l'Afrique. On va suivre vos aventures quasi en direct, sans quitter son salon, grâce à Internet, sur votre site anouveausurlaroute.fr. Et puis, on peut également s'abonner à vos carnets de voyage. Vous en avez amené quelques-uns. Ça coûte combien, Olivier?
Alors, c'est le principe d'un don. On a fonctionné sur une association, donc c'est un don libre. Nous, on a indiqué un peu un montant. Pour 10 numéros, on estime avec les coûts à peu près 35 euros. Mais les gens sont libres de donner plus, de donner moins, bien sûr. Voilà. Et sur chaque inscription, nous, on a souhaité un petit peu participer à toutes les actions que mène la Ligue contre le cancer. Et donc, chaque fois que quelqu'un s'inscrit, ben, on reverse, nous, 5 euros à la Ligue contre le cancer.
En tout cas, merci à tous les deux de nous avoir partagé vos carnets de voyage. À nouveau sur laroute.fr, c'est à suivre absolument. Bonne route. J'espère que vous allez nous donner de vos nouvelles quand vous serez partis là-bas. Derrière ces manettes, il a joué le chef de gare. C'était Mathias à la technique. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à toutes à l'écoute de RCF. Et puis soyez heureux, au moins jusqu'à la semaine prochaine.